L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 4 février 2013. Nous sommes des intendants. Voici le verset thème de l'étude. Vous ne vous appartenez pas. 1 Corinthiens 6, verset 19. Pendant la lecture de cet article, cherchez les réponses aux questions suivantes. Quel était le rôle d'un intendant au temps biblique? Qu'attend Dieu de tous ses intendants? Comment considérer notre rôle d'intendant? Paragraphe 1, question, qui évoque la notion d'esclavage. Il y a 2500 ans, un dramaturge grec a écrit « Personne ne se soumet volontiers au joug de la servitude ». Beaucoup aujourd'hui partagent cet avis. En effet, la notion d'esclavage évoque l'image de captifs opprimés dont le dur labeur profite non pas à eux-mêmes, mais à leurs propriétaires. Paragraphes 2 et 3, question A. Comment les esclaves ou serviteurs de Christ sont-ils traités? Question B. À quelle question allons-nous répondre? Jésus a pourtant fait savoir que ses disciples seraient d'humbles serviteurs, des esclaves. Mais en tant qu'esclaves, les vrais chrétiens ne sont ni humiliés ni opprimés. Honneur, confiance et respect leur sont accordés. Réfléchissons, par exemple, à ce que Jésus a dit peu avant sa mort à propos d'un esclave qu'il a qualifié de fidèle et avisé. Matthieu 24, versets 45 à 47. Notons que dans un récit parallèle, Jésus parle de cet esclave comme d'un intendant. Nous lisons en Luc 12, versets 42 à 44, et le Seigneur dit « Quel est donc l'intendant fidèle, l'avisé, que son maître établira sur l'ensemble de ses serviteurs pour continuer à leur donner leur mesure de vivre en temps voulu. Heureux cet esclave si son maître, en arrivant, le trouve en train de faire ainsi. Je vous le dis, c'est la vérité, il l'établira sur tous ses biens. » De nos jours, la plupart des chrétiens ne font pas partie de l'intendant fidèle. Cependant, les Écritures montrent que tous les serviteurs de Dieu ont des responsabilités d'intendant. Quelles sont-elles? Comment doit-on les considérer? Pour le savoir, examinons le rôle des intendants au temps biblique. Le rôle d'intendant. Paragraphes 4 et 5, question. Quelle responsabilité était confiée à un intendant? Donnez des exemples. Un intendant était souvent un esclave de confiance qui s'occupait de la maison ou des affaires de son maître. Il administrait ses biens et son argent, et il avait autorité sur les autres esclaves. C'était le cas d'Éliézer. Cet intendant gérait les nombreux biens d'Abraham. Il semble que ce dernier l'a même envoyé en Mésopotamie choisir une femme pour son fils Isaac. Quelle responsabilité! Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, était quant à lui l'intendant de Potiphar. Avec le temps, il a lui-même eu un intendant à son service, qui était au-dessus de sa maison. Cet homme a accueilli les 10 frères de Joseph et sur son ordre, il a organisé l'affaire de la coupe d'argent volée. De toute évidence, l'intendant jouissait d'une grande confiance. Paragraphe 6, question. Quelle responsabilité les différents surveillants chrétiens ont-ils? Des siècles plus tard, l'apôtre Paul a écrit que les surveillants chrétiens sont des intendants de Dieu. Tite 1, verset 7. Étant chargé de faire paître le troupeau de Dieu, il dirige les congrégations. 1 Pierre 5, versets 1 et 2. Bien sûr, ils n'ont pas tous les mêmes responsabilités. La plupart s'occupent d'une congrégation, les surveillants itinérants de plusieurs, les membres des comités de filiales de celles de pays entiers. On s'attend toutefois à ce que tous s'acquittent fidèlement de leurs responsabilités. Tous rendront compte à Dieu. Paragraphe 7, question. Pourquoi peut-on dire que tous les chrétiens sont des intendants? Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas surveillants? L'apôtre Pierre s'est adressé à tous les chrétiens en ces termes. Pour autant que chacun a reçu un don, utilisez-le en vous servant les uns les autres comme d'excellents intendants de la faveur imméritée de Dieu, laquelle se manifeste de manière diverse. 1 Pierre 4, verset 10. Dans sa faveur imméritée, Dieu a doté chacun de nous de dons, d'atouts, d'aptitudes ou de talents que nous pouvons mettre au service de nos frères et sœurs. Tout serviteur de Dieu est donc un intendant. C'est là une responsabilité, un honneur et une marque de confiance. Nous appartenons à Dieu. Paragraphe 8, question. Quel principe important devons-nous garder à l'esprit? Arrêtons-nous maintenant sur trois principes que nous devrions garder à l'esprit en tant qu'intendant. Voici le premier. Nous appartenons tous à Dieu et avons tous des comptes à lui rendre. Vous ne vous appartenez pas, a écrit Paul, car vous avez été achetés à un prix, le sang du Christ. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Puisque nous appartenons à Jéhovah, nous sommes dans l'obligation d'obéir à ses commandements qui ne sont pas pesants. Nous sommes aussi devenus esclaves de Christ. Philippiens 1, verset 1. Tels les intendants du passé, nous disposons d'une grande liberté, qui a toutefois des limites. Il nous faut assumer nos responsabilités conformément aux instructions reçues. En fait, quelles que soient nos attributions de service, nous restons des serviteurs de Dieu et de Christ. Paragraphe 9. Question. Comment Jésus nous aide-t-il à mieux comprendre la relation maître-esclave? Jésus nous aide à mieux comprendre la relation maître-esclave. Dans un exemple donné à ses disciples, il parle d'un esclave qui rentre de sa journée de travail. Son maître lui propose-t-il de venir s'étendre tout de suite à table? Certainement pas. Il lui dit plutôt « Prépare-moi quelque chose pour que je prenne mon repas, mets un tablier et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après quoi tu pourras manger et boire. » Par quelle leçon Jésus conclut-il? De même, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été assignées, dites « Nous sommes des esclaves bons à rien. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous devions faire. » Luc 17, versets 7 à 10. Paragraphe 10, question. Comment savons-nous que Jéhovah accorde du prix à nos efforts pour le servir? Bien entendu, Jéhovah accorde du prix à nos efforts pour le servir. La Bible nous le garantit. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6, verset 10. Jéhovah n'est en aucun cas déraisonnable dans ses attentes. De plus, ce qu'il nous demande tourne toujours à notre avantage et n'est jamais trop difficile. Cela dit, comme le souligne l'exemple de Jésus, un esclave ne cherche pas à se faire plaisir en donnant la priorité à ses intérêts. Retenons qu'en nous vouant à Dieu, nous choisissons de faire passer ses intérêts à la première place dans notre vie. N'êtes-vous pas d'accord? Ce que Jéhovah attend de nous. Paragraphes 11 et 12, question A. En tant qu'intendant, quelles qualités devons-nous manifester? Question B. Que devons-nous rejeter? Deuxième principe. En tant qu'intendant, nous nous conformons tous aux mêmes exigences. C'est vrai, dans l'organisation de Jéhovah, certains assument des responsabilités que d'autres n'ont pas. Mais fondamentalement, Dieu demande les mêmes choses de nous tous. Par exemple, comme nous sommes disciples de Christ et témoins de Jéhovah, il est essentiel de nous aimer les uns les autres. Jésus a d'ailleurs indiqué que l'amour est la marque distinctive du véritable christianisme. Notre amour ne se limite pas à nos frères et sœurs. Nous nous efforçons également de le manifester à ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est ce que Jéhovah attend de chacun de nous. Nous devons aussi avoir une conduite droite et rejeter les comportements et les modes de vie condamnés par la parole de Dieu. Paul a déclaré « Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni homme qu'on entretient à des fins contre nature, ni homme qui couche avec des hommes, ni voleur, ni gens avides, ni ivrogne, ni insulteur, ni extorqueur, n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Admettons-le, conformer sa vie aux normes divines exige des efforts, mais ces efforts en valent la peine, car ils nous procurent de nombreux bienfaits. Citons de bonnes relations avec notre prochain, un mode de vie qui favorise une bonne santé, ou encore l'approbation de Dieu. Nous lisons en Isaïe 48, versets 17 et 18. Voici ce qu'a dit Jéhovah, ton racheteur, le Saint d'Israël. Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton profit, celui qui te fait cheminer sur le chemin où tu dois marcher. Ah, si seulement tu étais bien attentif à mes commandements, alors ta paix deviendrait comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. Paragraphes 13 et 14, question A. Quelle responsabilité chaque chrétien a-t-il? Question B. Comment devrions-nous la considérer? Rappelons-nous qu'un intendant avait un travail à effectuer. C'est aussi notre cas. Dieu nous a fait un cadeau inestimable. Il nous a enseigné la vérité à son sujet. Et il s'attend à ce que nous la communiquions. Paul a dit que l'homme nous estime donc comme des subordonnés de Christ et des intendants de saints secrets de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Paul reconnaissait qu'il était un intendant. À ce titre, il lui fallait accorder une grande attention aux saints secrets et s'appliquer à en parler à autrui conformément à l'ordre de son maître Jésus-Christ. Parler à son prochain de la vérité est en fait une preuve d'amour. Évidemment, la situation de chacun est différente. Nous ne pouvons pas tous en faire autant dans le ministère, et Jéhovah le comprend. Ce qui compte, c'est de faire tout ce que nous pouvons. Nous témoignons ainsi un amour désintéressé à Dieu et à nos semblables. La fidélité, une qualité indispensable. Paragraphes 15 à 17, question A. Pourquoi un intendant doit-il se montrer fidèle? Question B. À l'aide de quels exemples Jésus a-t-il souligné les conséquences de l'infidélité? Troisième principe, étroitement lié aux deux précédents. Nous devons être fidèles, dignes de confiance. Les belles qualités et aptitudes que peut avoir un intendant ne sont d'aucune utilité s'il prend ses responsabilités à la légère ou s'il manque à ses engagements envers son maître. Pour mener sa tâche à bien, il doit absolument se montrer fidèle. Souvenons-nous de ces paroles de Paul. Ce qu'on cherche chez les intendants, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Si nous sommes fidèles, nous serons à coup sûr récompensés. Si nous ne sommes pas fidèles, nous en pâtirons. Cela ressort bien de l'exemple des talents utilisés par Jésus. Les esclaves consciencieux qui ont fait des affaires avec l'argent du maître ont été félicités et abondamment récompensés. Quant à l'esclave négligent, qualifié de méchant, de paresseux et de bon à rien, il s'est vu retirer le talent qu'il avait reçu, puis a été chassé. Nous lisons en Matthieu 25, versets 14 à 18. C'est, en effet, comme lorsqu'un homme, sur le point de partir en voyage à l'étranger, a appelé quelques-uns de ses esclaves et leur a confié ses biens. À l'un, il a donné 5 talents, à un autre 2, à un autre encore 1 seul, à chacun selon ses capacités personnelles, et il est parti en voyage à l'étranger. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en est allé faire des affaires avec cet argent, et en a gagné 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 en a gagné 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en est allé creuser un trou dans la terre et y a caché l'argent de son maître. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui a dit, « C'est bien, esclave bon et fidèle, tu as été fidèle sur peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 26. En réponse, son maître lui a dit, « Esclave méchant et paresseux, tu savais, n'est-ce pas, que je moissonnais là où je n'avais pas semé et que je ramassais là où je n'avais pas vanné. » Versets 28 à 30. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais quant à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et jetez l'esclave bon à rien dans les ténèbres du dehors. C'est là que seront ses pleurs et ses grincements de dents. À l'aide d'un autre exemple, Jésus a souligné les conséquences fâcheuses de l'infidélité. Un certain homme était riche et il avait un intendant. Et celui-ci a été accusé auprès de lui comme gaspillant ses biens. Il l'a alors appelé et lui a dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Remets le rapport de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer la maison. » Luc 16, versets 1 et 2. Pour avoir gaspillé les biens de son maître, l'intendant a été renvoyé. Un enseignement précieux se dégage de cet exemple. Ayons toujours à cœur de nous acquitter fidèlement de nos responsabilités. Est-il sage de se comparer à d'autres? Paragraphe 18, question. Pourquoi ne pas se comparer à d'autres? S'il est bien de se demander « Est-ce que je suis un bon intendant ?», il n'est pas judicieux de se comparer à d'autres. La Bible nous donne ce conseil « Que chacun éprouve ce que vaut son œuvre à lui, et alors il aura lieu de se glorifier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec l'autre personne. » Galates 6, verset 4. Au lieu de nous comparer à d'autres, concentrons-nous sur ce que nous sommes capables de faire. Nous éviterons ainsi de nous enorgueillir ou de nous démoraliser. Lorsque nous nous analysons, ne perdons pas de vue que les choses changent. Peut-être une mauvaise santé, certaines obligations ou le grand âge nous empêchent-ils d'en faire autant qu'avant? Ou peut-être sommes-nous à présent en mesure d'en faire davantage? Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre un nouvel élan? Paragraphe 19, question. Si une responsabilité ne nous est pas confiée, pourquoi ne pas nous décourager? Considérons maintenant les responsabilités que nous avons ou que nous souhaitons avoir. Par exemple, un frère pourrait éprouver le désir de devenir ancien ou de présenter des discours lors d'assemblées. Il est bon de chercher à acquérir les qualités requises en vue d'assumer ce genre de responsabilité. Mais si celles-ci ne nous sont pas confiées aussi rapidement que nous l'avions espéré, ne nous décourageons pas. Pour des raisons qui nous échappent, il nous faudra peut-être patienter. Pensons à Moïse. Même s'il semblait prêt pour faire sortir les Israélites d'Égypte, il a dû attendre 40 ans. Cela lui a permis d'acquérir les qualités nécessaires pour guider un peuple rebelle aux coups raides. Paragraphe 20, question. Quelle leçon retenir de l'exemple de Jonathan? Il se pourrait également qu'une responsabilité ne nous soit jamais confiée. C'est ce qui est arrivé à Jonathan. Fils du roi Saül, il aurait pu régner sur tout Israël. Pourtant, Dieu a choisi David, qui était bien plus jeune. Quelle a été la réaction de Jonathan? Il s'est soumis à la décision de Dieu et a soutenu David, même au péril de sa vie. « Toi, tu seras roi sur Israël, lui a-t-il dit, et moi, je deviendrai le second après toi. » 1 Samuel 23, verset 17. Jonathan a accepté sa situation et, contrairement à son père, n'a pas jalousé David. La leçon à retenir. Plutôt que d'envier les responsabilités des autres, acquittons-nous au mieux des nôtres. Soyons assurés que, dans le monde nouveau, Jéhovah comblera les désirs légitimes de tous ses serviteurs. Paragraphe 21, question. Comment considérer notre rôle d'intendant? Souvenons-nous que notre service en tant qu'intendant de Dieu n'a rien de comparable avec l'esclavage, synonyme d'oppression et de détresse. Bien au contraire, Dieu nous fait confiance et nous honore. Il nous a chargés d'une mission qui ne se répétera plus jamais. La proclamation de la bonne nouvelle durant les derniers jours du présent système de choses. Nous disposons aussi d'une grande liberté quant à la façon d'assumer nos responsabilités. Par conséquent, soyons des intendants fidèles et chérissons l'honneur que nous avons de servir le plus grand personnage de l'univers. Après avoir écouté cet article, que répondriez-vous ? Quel était le rôle d'un intendant au temps biblique? Qu'attend Dieu de tous ses intendants? Comment considérer notre rôle d'intendant? Fin de l'article.